Piste 40.
Activité 14.
Exercice 1.
L'entretien de Pascal Chabot, auteur de Global Burnout, est à écouter sur le site de France 24. Si vous ne parvenez pas à trouver la source, écoutez le texte suivant enregistré par des comédiens.
Le terme burn-out apparaît dans les années 80 à New York. C'est un psychiatre qui s'appelle Freudenberger qui a constaté sur lui-même un état d'épuisement après des années dans une free clinic, donc dans une clinique où on soignait les toxicomanes. Il se dévouait énormément à son travail et un jour, il n'en pouvait plus. Il s'est enregistré lui-même dans une sorte d'auto-analyse, car il était formé à la psychanalyse, et il a entendu dans sa voix de la fatigue, du cynisme également, et puis... Par rapport à son travail, il sentait aussi qu'il y avait une perte d'efficacité assez importante. Et en y réfléchissant, en parlant avec ses collègues également, il s'est dit que la meilleure manière de le nommer, c'était par cette métaphore d'incendie, puisque « burn-out » en anglais, c'est une combustion.
C'est être cramé, en fait.
C'est vraiment être cramé. Ce serait une des meilleures manières de le traduire en français. Avoir tant donné, finalement, et surtout dans une profession comme celle de médecin qui était dévouée au service des autres. Avoir tant donné, et puis, à un moment, être vidé de son... être vidé de l'intérieur.
Oui, mais alors, ce burn-out, on constate aussi qu'il est, comment dire, qu'il a eu peut-être des... Justement, vous parliez de médecin. C'est plutôt, ça concerne des métiers où il y a une mission, ou un idéal. Comment expliquer ça aussi?
À l'origine, très fort. À l'origine, ce sont les médecins, les infirmières, également les enseignants, qui sont thématisés dans le livre de Freudenberger de 1980. Par la suite, de nombreux autres cadres professionnels vont se servir du terme. Mais pourquoi les professions d'aide? Pourquoi ces professions à forte composante idéaliste? Pourquoi ces professions dont, finalement, Freud disait qu'elles étaient impossibles, puisque Freud dit qu'il y a trois métiers impossibles avec la modernité: soigner, gouverner, ainsi qu'éduquer. Eh bien, d'abord parce que le résultat n'est jamais entièrement satisfaisant. On ne peut pas être tout à fait sûr d'arriver à ses fins quand on éduque, par exemple, ou quand on soigne, surtout pas pour un psychiatre. Et puis aussi, peut-être parce que dans notre société, qui est une société à composantes technologiques extrêmement fortes et qui valorise tout de même l'efficacité, la puissance et la rentabilité, eh bien, ces métiers, ce n'est pas qu'ils soient dévalorisés, mais que c'est que s'ils sont attachés à l'humain, ils sont attachés à la fragilité humaine. Ils sont attachés à une chose qui, dans notre société, n'est peut-être pas ce qui est le plus valorisé.
Oui, alors vous parlez de trouble miroir en parlant de burn-out. Expliquez-nous ce qu'est cette expression. Pourquoi trouble miroir? Ça reflète quelque chose? Pourquoi cette miroir?
Tout à fait, tout à fait. Je vais chercher une analogie avec la dépression. Pour moi, l'analogie... La dépression n'est pas un trouble miroir, puisqu'elle peut être un sentiment qui envahit l'être suite à une perte, par exemple, ou qui est assez général. Le trouble miroir, au contraire, c'est un trouble qui naît directement d'un rapport à un certain type de civilisation. Le trouble est miroir d'un excès, d'un trop, d'une composante vraiment sociale, comme la mélancolie l'était au XIXe siècle, comme la neurasthénie.
Le spleen?
Comme le spleen baudelairien, qui est vraiment une réaction à l'époque.
À la modernité.
Réaction à la modernité. La neurasthénie également, chez Proust, elle est vraiment la convergence entre l'idéal romantique, d'une part, et puis modernisation de plus en plus importante au moment de la Première Guerre mondiale. Et trouble miroir, le burn-out de 2012, de 2013, dans notre civilisation.
Oui, absolument. Et ça fait penser justement... Ça reflète comme un malaise de notre civilisation postmoderne. Et ça me faisait penser à un livre d'un romancier canadien qui s'appelle Douglas Coupland, qui a décrit Génération X, où c'était une génération de personnes qui étaient un peu coincées entre les hippies et les youpies, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'avaient plus du tout envie d'être dans... Ils étaient lucides par rapport à la société de consommation. Ils l'avaient intégré, ils n'avaient plus les utopies des années 60, ils étaient revenus de ça. Parce qu'il faut dire que beaucoup de hippies sont devenus quand même plutôt youpies, et puis ils avaient envie, comment dire, de devenir des requins. Et ça me fait penser tout à fait à ça dans cette civilisation de la performance.
Tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans une époque profondément ambiguë. Personnellement, je l'aime énormément. Et je la redoute aussi, énormément. Il y a un rapport du ni-ni à l'époque. C'est-à-dire que nous ne pouvons adhérer aux valeurs du progrès ou de la rentabilité pour la rentabilité, qui sont plutôt les valeurs youpi dont vous parliez. Et les idéaux radicalement anti-progrès sont impossibles à suivre également. Nous devons au progrès certainement des aspects les plus considérables, les plus misérabilistes aussi de notre société, par exemple la médecine de pointe. Donc on est dans cet entre-deux, dans cette ambivalence par rapport au progrès. Et peut-être le burn-out est-il une perte de sens ? Est-il une maladie du sens, finalement, qui affecte certaines personnes, qui donnent tout à un système ?
Alors, comme vous expliquez dans votre livre aussi, en parlant des personnes qui donnent tout, souvent vous parlez, vous avez un chapitre qui est dédié au burn-out féminin. Pourquoi ça touche beaucoup les femmes ?
Il m'a semblé en effet que les femmes pouvaient être plus concernées par ce trouble. D'abord parce que les métiers où le burn-out est le plus souvent diagnostiqué, par exemple les métiers d'aide, comme les infirmières, sont des métiers souvent plus féminins, où il y a toute une série de pièges. Par exemple, le piège de la compassion, qui est très bien documenté par Pascal Molinier, où on voit bien qu'on demande aux femmes d'être plus compassionnelles, comme s'il était naturel à une femme d'être compassionnelle, alors que la compassion est une compétence professionnelle qui est construite. Je pense également...
Elles prennent sur elles, en fait.
Elles prennent sur elles, mais elles ne le font pas naturellement.
Absolument, comme tout être humain.
Tout à fait, tout à fait.
Il n'y a pas de raison qu'elles soient plus compassionnelles que les hommes.
Mais évidemment.
C'est la société qui projette ça.